Ça fait un an. Un an et je n'ai pas vu le temps passer. Un an de rencontres, d'émotions, de questions. Un an avec les jeunes du centre socio-culturel intercommunal de la Sensée de l'Ostrevent et avec leurs animateurs pour tenter de dessiner un monde sans barrières. Un an où le témoignage des uns percute ou renforce celui des autres. Un an que se balade ce micro, là, devant un élu local, là, auprès des bénévoles et des militants, ici encore, face aux artistes, plasticiens, auteurs, chorégraphes, cinéastes. Et comme vous n'étiez pas du voyage, voici pour vos oreilles, un monde sans barrières.
Ça a débuté, surtout on va dire au mois de septembre, par rapport à l'actualité, et voilà, certains jeunes souhaitaient aller sur Calais, en l'occurrence la jungle de Calais, pour apporter leur soutien, donc voilà, au travers l'apport de biens, enfin vestimentaires, etc. Parce qu'ils voilà, ils se sentaient concernés, mais ils ne savaient pas par quel biais intervenir.
Amélie Poutrin, éducatrice, en charge de l'animation jeunesse prévention au centre socio-culturel intercommunal.
À partir de là, voilà, avec Sophie, on a réfléchi effectivement ce qu'on pouvait apporter pour répondre à leurs demandes. Donc la première étape a débuté donc avec la diffusion du documentaire Tout à reconstruire, réalisé par Marine Place. Et ce qui a vraiment donné la pertinence de cette instance qu'on a nommée Ciné-Goûter Citoyen, c'est que Marine a était présente et a pu répondre, j'ai envie de dire, à chaud aux questions des jeunes concernant justement les personnes filmées dans son documentaire.
J'ai commencé à le tourner en 2011, en fait, et j'ai tourné pendant un an et demi à deux ans avec des jeunes qui sont arrivés, des jeunes afghans qui sont arrivés mineurs en France et qui ont dû un peu tout reconstruire, c'est-à-dire retourner à l'école, refaire leur vie en France.
Marine Place, réalisatrice, documentariste.
J'ai discuté avec des associations parce que j'en ai forcément croisé. J'ai particulièrement discuté avec un des personnages du film qui s'appelle Bruno Mistian, qui est dans le film et qui accueille chez lui des jeunes afghans. Et c'est à travers mes discussions avec lui que le film est né, en fait. Une fois que je décide de faire un documentaire, que je vois les gens, etc., je reste très en lien avec eux, que ce soit avec caméra ou sans caméra. C'est-à-dire qu'on discute au téléphone de ce qui se passe en ce moment pour eux, etc. Et ensemble, on décide de ce qui pourrait être filmé. On décide du jour. Il y a eu peut-être, je sais pas, peut-être 20 jours de tournage en tout, mais sur 3 ans. Ils ne sont pas venus à moi, c'est moi qui suis allée à eux. Ils n'avaient pas spécialement envie d'être filmés, j'ai dû les convaincre. Je les ai convaincus que ce qu'ils allaient dire allait justement être représentatif pour d'autres. Donc à partir de là, ils ont accepté la caméra et mon regard.
Ouais, c'était compliqué pour ces personnes qui ont déménagé dans leur pays. Ils ont été déracinés et ça leur fait mal au cœur parce qu'ils ont soit dû fuir la guerre ou Daesh. Ils ont du tout à reconstruire, comme vous prenez le film. Et Marine permet d'ouvrir les yeux sur le reste du monde, même si on en parle avec la Syrie, Iran, et etc. Donc c'est bien de voir comment font les gens qui viennent de partir de leur pays, comment ils font, est-ce qu'on les aide, etc. Quoi.
Je pense qu'elle fait ça pour faire prendre conscience aux gens que eux, ils ont de la chance d'avoir leur petite vie avec leur petite famille et tout, et que bah, y a des personnes qui n'ont pas cette chance-là. Bah, moi, je suis née dans une petite famille, un petit village sans histoire et tout, donc j'ai ma petite vie, je suis nourrie, logée, je suis scolarisée, donc oui, j'ai beaucoup de chance.
Comparé à eux, on a une vie de roi.
Ces rencontres ont vraiment été, on va dire, bouleversantes. C'est-à-dire qu'entre les images, les médias, ce qu'ils ont pu voir à la télé ou sur Internet, le fait de se retrouver face à face avec une personne qui relate son histoire les a fait prendre considérablement conscience, on va dire, de la situation. C'est-à-dire que derrière un mot, immigré, réfugié, il y a surtout une personne, une histoire qui est malheureusement, on va dire, assez bouleversante parce que c'est des choses qui nous sont très, comment dire, éloignée au final. Et le fait d'avoir une personne qui témoigne, enfin, en face, et que après, voilà, ça fédère des échanges. Tout ça, ça prend une tournure vers la réalité. C'est ça, la vraie vie, et ça s'est bien passé. Et du coup, entre eux, ça crée vraiment des débats. Et le fait qu'ils aient rencontré ensemble des personnes dans cette situation, ça les a vraiment fait changer ce regard, en fait.
Je m'appelle Khalil Moumine, je viens d'Afghanistan, je suis afghan.
Et tu faisais quoi dans ton pays ?
Bah, je suis étudiant là-bas, de temps en temps j'y travaille, et de temps en temps je suis à l'école. En fait, j'ai commencé à 8h l'école, j'ai fini midi, après-midi j'ai un magasin à centre-ville en Afghanistan. Je travaille après-midi avec ma soeur dans le magasin.
Est-ce que tu avais des loisirs ? Est-ce que tu faisais des sports ou...
Ouais, bien sûr, ouais. Même en Afghanistan, je fais la boxe. Quand je suis venu en France aussi, j'ai continué la boxe. Après, vous connaissez très bien, en Afghanistan, ça fait 30 ans, ça fait 40 ans qu'il y a la guerre. C'est pour ça, je pense que vous connaissez talibans, touristes comme ça. Et ils sont venus demander mon père, il a dit qu'il donne les gens, des gamins comme ça, il vient avec nous. Après, mon père, et pourquoi qu'il donne des gens, des gamins par exemple, il va avec eux pour faire la guerre ou je sais pas quoi. C'est pour ça qu'ils ont tué mon père. Voilà, après, ma mère m'a dit que tu vas les quitter en Afghanistan, tu vas aller en France. Ouais, c'est ma mère qui m'a dit que tu restes pas en Afghanistan. Si tu restes en Afghanistan, un jour, toi aussi, tu es mort comme ton père.
Est-ce que tu as eu peur de partir et de quitter ta famille ?
Bah, bien sûr, c'est normal. C'est quand même, c'est la famille. Voilà. Après, c'est comme ça, c'est normal. Bah, en fait, quand j'ai quitté Kaboul, le capital, après, j'ai venu au Pakistan, est-ce que vous connaissez, je pense. Après, Iran, après, Turquie, après, Grèce, après, Macédonie, Serbie, après, Autriche, Hongrie, après, Italie, après, France.
Et il a une histoire qui est vraiment très touchante et... Il a une expérience de la vie à notre âge qu'on ne devrait pas avoir. Il a dû quitter sa maison, il a dû abandonner sa mère, on a tué son père devant ses yeux. Il a dû voyager à pied, en bateau, et c'est vraiment quelque chose qu'à cet âge-là, on ne devrait pas vivre, quoi. Lui, je pense que bah, à son âge, il voulait pas quitter son pays, mais il n'a pas eu le choix. Donc, il est en France parce qu'il n'avait pas le choix. Je sais pas comment dire.
Je pense que on se soucie pas assez de ce qu'ils ont vécu.
Oui, c'est un peu dérangeant parce que bon bah déjà hors micro, il est arrivé, il a dit je veux pas parler ici. Donc après une fois devant les micros, on avait peur de lui poser des questions, on avait peur d'avoir beaucoup de non, je veux pas vous répondre. Et puis ça fait bizarre parce que on a vraiment l'impression de rentrer dans la vie d'une personne. Je pense qu'on l'a quand même mis un peu en confiance.
Alors, je ne sais pas si on parle d'innocence, mais en tout cas, c'est brut de pomme. C'est vraiment comme ils le ressentent. Et aussi, avec toutes les notions très objectives, avec les définitions de, voilà, qu'est-ce qu'un réfugié, qu'est-ce qu'un demandeur d'asile, qu'est-ce qu'un immigré, à partir de là, ils sont en manque de réponse par rapport à, on va dire, à l'actualité. Ils ne comprennent pas des choses et ça leur semble tellement simple à résoudre et ils veulent du coup avoir des éléments de réponse auprès des décisionnaires, donc en l'occurrence effectivement les représentants politiques.
Accueillir des migrants à Cortal. Première réponse, je ne suis pas du tout contre d'accueillir des migrants dans la commune.
Christian Courtecuisse, maire de Quentin.
Par contre, il y a un autre volet, c'est la difficulté de les accueillir. Je vous ai dit tout à l'heure, une commune de 1500 habitants, c'est quand même assez petit. Des structures d'accueil n'existent pas. Des logements qui pourraient se rendre disponibles n'existent pas. C'est une question qui peut se poser. Je ne suis absolument pas contre d'accueillir des migrants, à la hauteur de notre commune, bien évidemment. Avec quels moyens, j'aurais difficile de vous répondre tout de suite comme ça, mais ça ne me dérangerait pas si on en avait les possibilités. Par exemple, un logement libre qui appartiendrait à la commune.
Est-ce que vous trouvez qu'il y a une différence entre les nouveaux migrants qui arrivent et les vagues de migrants qu'il y avait avant?
Alors, qu'il y avait avant, c'est quoi? C'est les Polonais qui sont venus travailler dans nos mines? C'est ça, vous voulez dire?
Oui, par exemple.
Ah, c'est pas tout à fait pareil. Je pense qu'ils sont venus pour travailler, hein, travailler dans les mines, parce qu'il y avait du travail. Hein. Et ici, c'est parce qu'ils fuient la guerre. Hein, c'est pas pareil. Hein. Je pense qu'eux, ils auraient préféré, les migrants actuels, auraient préféré rester dans leur pays. Hein.
Pour moi, en 1960-70, les personnes étaient beaucoup plus accueillantes que maintenant. Maintenant, c'est vrai que les Français sont bien, bien plus égoïstes maintenant qu'avant.
Bah bien sûr, parce qu'on a demandé aux gens de venir, en fait. Parce que, alors je sais plus vraiment les dates, mais il y avait trop de travail. Et donc, on n'avait pas assez d'ouvriers. On a demandé aux gens de venir. Du coup, ils étaient vraiment très bien accueillis, vu que bah, on les voulait dans notre pays. Mais les migrants, aujourd'hui, bah, c'est la triste vérité. Les gens en veulent plus. Avant, quand ils voulaient venir, ils pouvaient venir comme ils voulaient. Maintenant, il y a des barrières entre les pays, mais de réelles barrières, avec des barbelés et des murs, et c'est aberrant.
Au départ, leur engagement, c'est de soutenir des personnes sans papier pour leur régularisation. Donc, pour qu'ils soient acceptés en France, etc. etc. Donc, c'est un engagement entre guillemets froid. Quoi. C'est, voilà.
Jean Pasqualini, membre du réseau Éducation sans frontières.
Sauf que c'est un engagement qui fait qu'on est. C'est une rencontre en même temps personnelle. Pour la préfecture, c'est une situation administrative. Mais pour nous, c'est une situation humaine, personnelle. Donc c'est à la fois un militantisme, mais c'est en même temps une relation humaine. Donc les gens qu'on défend, c'est en même temps...
Est-ce qu'on les aime ?
Bah oui. Voilà. Mais oui, c'est ça.
Jean, il lutte pour que les enfants ils soient scolarisés avec des papiers. Et les enfants ou les familles et des papiers, en fait. Il a aidé Mamadou, je crois, à rester en France. C'est vraiment incroyable de devoir se battre comme ça pour pouvoir avoir des papiers, en fait. Que ces personnes-là, elles partent de leur pays, qu'elles n'ont pas le choix. Mais qu'en plus, elles doivent se battre pour avoir des papiers et enfin avoir une vraie vie décente qui peut vraiment commencer.
Peut-être qu'ils trouvent ça sidérant qu'ils soient dans des situations pareilles. Ils ont pris conscience que fallait les aider et que c'était pas normal ce qui se passait.
Moi, si c'est pour aider les gens, honnêtement, je ferais comme Jean, quoi. J'irais les aider. Je serais pas lâche, on va dire. Et,
Mon identité, c'est compliqué, hein, parce qu'en fait, j'ai une identité française, hein, parce que je suis né en France, j'ai grandi en France.
Abdelkader Relan, romancier.
Donc mon identité, elle est principalement, j'ai envie de dire, submergée de ce qui fait la France d'aujourd'hui, c'est-à-dire les valeurs qu'on enseigne à l'école notamment, mais aussi, elle est aussi, donc, j'ai envie de dire, alimentée par ma famille, par mes parents. Mes parents sont algériens, moi je suis français, mes parents sont algériens, mes parents sont étrangers dans mon propre pays. Et en fait, je suis... mon identité, elle est issue de ce que je suis en tant que personne française et ce que je suis aussi en tant qu'Algérien, musulman, enfin voilà. Tout ça, c'est une addition, en fait. C'est une addition de ce que je suis en réel.
Abdelkader, lui, il est français parce qu'il est né sur le sol français. Donc, il a acquis la nationalité française. Mais... ça doit faire vraiment bizarre de dire mes parents ils considèrent la France comme leur pays, mais ils sont pas dans leur pays, en fait.
Et pour revenir sur la question d'Abdelkader Relan, quand il disait mes parents sont étrangers dans mon pays, aujourd'hui en France tout le monde est étranger, personne n'est vraiment français de pure souche avec tout ce qui s'est passé avant.
Dessinons un monde sans barrières. Un projet mené par les jeunes du Centre socio-culturel intercommunal de l'Ostrevent et de la Sensée. Documentaire de Hervé Dujardin, production Radio Scarpe Sensée.